9h09, très belle journée à vous. Vous avez rendez-vous maintenant avec l'été comme jamais. Dorothée Barba, c'est à vous.
Merci beaucoup Amélie Perrier et bonne journée.
Merci.
Comment ça va?
Je respire, l'air est pur, tout est calme, je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, un peu de pub pour Winnicott. Non, je vous rassure, ce n'est pas une marque de Paris en ligne. Donald Winnicott était un psychiatre britannique. Dans les années 1950, il a forgé le concept de la mère suffisamment bonne. The good enough mother. Il explique qu'une mère qui serait trop bonne avec son enfant, répondrait à tous ses besoins, ne le laisserait pas ressentir le manque, qui est pourtant essentiel à son autonomie et à son équilibre. L'enfant a besoin que sa mère ne soit pas parfaite, ça marche aussi pour les pères. Alors inutile de m'écrire pour m'expliquer que j'ai rien compris à la pensée de Winnicott. Ne vous fatiguez pas, j'ai conscience de le caricaturer, mais ça m'arrange. À chaque fois que je ne suis pas contente de moi en tant que mère, je brandis Winnicott. Oui, il m'arrive parfois de hausser le ton, voire de crier sur mes enfants. Oui, j'utilise certains jours un odieux chantage. Si tu te laves pas les dents tout de suite, il y aura pas de télé. Oui, ils ont des flingues en plastique, alors que j'avais juré que jamais une arme factice n'entrerait chez moi. Mais je ne suis pas parfaite, et tant mieux pour mes enfants, c'est dans leur intérêt. Good enough mother. Alors disons-le tout net, hein, la parentalité, c'est le royaume du renoncement. Celui où l'on mesure chaque jour l'écart entre la théorie et la pratique. Posons-nous la question, c'est parti, peut-on avoir des enfants et des principes?
Dorothée Barba, sur France Inter.
Avec trois invités en direct jusqu'à 10h, deux sont à distance et une avec moi en studio. Bonjour Lucille Bellan.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste pour Slate, mère de trois enfants. J'ai pas l'habitude de le préciser, mais d'aujourd'hui ça a un petit peu son importance. Vous avez publié aux éditions Le Duc un petit traité d'éducation féministe. Voilà un sujet sur lequel la réalité vient souvent se fracasser comme un parpaing sur nos principes. Quel est le dernier épisode personnel en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes dans l'éducation de vos enfants?
Bah, c'est simple. On est en plein dedans en ce moment, la recherche du maillot de bain pour, ah, pour ma fille de 10 ans, ou en tout cas lui trouver des alternatives pour qu'elle puisse avoir le choix et pas lui imposer forcément une pièce Décathlon pas fun. C'est cool pour l'année scolaire et pour faire les cours de piscine, mais pour l'été c'est un peu moins rigolo. Et du coup, ce débat sur est-ce qu'on passe aux deux pièces, est-ce qu'on passe aux deux pièces bikini, qui est le truc qu'on trouve très très facilement aujourd'hui dans les magasins, et comment on trouve une pièce pratique pour faire toutes les activités qu'on veut faire à la piscine ou à la plage, mais de manière jolie.
Mais si elle choisit un maillot de bain que vous jugez sexiste, est-ce que vous renoncez à vos principes?
Franchement, je pense qu'elle a un âge où on peut en discuter, en débattre, et donc à un moment, il faut aussi qu'elle exprime sa propre individualité, donc je ne vais pas lui imposer le maillot de bain moche juste pour mes principes féministes. Non.
J'accueille ma deuxième invitée en ligne depuis la Belgique, Isabelle Roskam. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure en psychologie du développement à l'université de Louvain, mère de 5 enfants. Oui. Vous avez lancé il y a 7 ans maintenant des recherches sur ce qu'on appelle le burn-out parental. Des recherches similaires d'ailleurs sont menées aujourd'hui dans de nombreux pays. Vous avez publié avec Moira Micholaschk le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir chez Odile Jacob. Alors, avoir des principes, vouloir être parfait dans son rôle de parent, ça peut conduire à l'épuisement. Mais le burn-out parental, Isabelle Roskam, c'est la marche encore au-dessus hein, par rapport à l'épuisement.
Oui, c'est ça. L'épuisement, c'est la porte d'entrée dans le burn-out. C'est souvent le symptôme qu'on voit arriver en premier. Mais le burn-out parental, c'est plus que ça. C'est un état dans lequel non seulement on est épuisé, mais on en vient aussi à se distancier de ses enfants émotionnellement, physiquement, avec plus la capacité à leur montrer qu'on les aime bien qu'on les aime, et une perte de plaisir et de sens dans le rôle parental qui prend une place énorme avec le parent qui ressent un contraste par rapport à ce qu'il était avant ou au parent qu'il rêvait d'être. Et voilà, ça c'est quand on est en burn-out et qu'on s'est laissé aller trop loin.
Ouais, on verra avec vous si avoir trop de principes peut conduire à l'épuisement. Nicolas Santolaria est mon troisième invité, lui aussi à distance. Théorème de la couche culotte, c'est le titre de son livre aux éditions Anna Mossa. Journaliste, père de deux enfants. Bonjour à vous Nicolas Santolaria.
Bonjour.
Alors ce livre est un recueil de vos chroniques parues dans le journal Le Monde sous le titre « Parentologie ». Qu'est-ce que la parentologie? Est-ce une nouvelle science?
C'est une nouvelle science, mais totalement inexacte, en fait, liée à mes propres expérimentations sur mes enfants. Et en fait, oui, je me suis assez rapidement aperçu qu'entre ma théorie et la pratique, il y avait un énorme fossé. Donc voilà, ça sera un peu ça, la parentologie, c'est l'exploration de cette faille entre mes propres projections éducatives parfaites et la réalité sous mes yeux.
Il faut nous en dire plus sur ce titre plein de promesses. Qu'est-ce que le théorème, pardon, de la couche culotte?
Disons que c'était un peu un joke, un jeu au départ, c'est un titre un peu marrant, mais il y a cette idée que finalement la couche culotte, on la plie, on la replie, c'est une sorte d'origami en fait, et puis on se replie, on se déplie soi-même comme un petit peu une nouvelle personne, parce que là, c'est en étant parent en fait, concrètement, au travers de toutes ces tâches, parfois sans noblesse apparente, qu'on se transforme petit à petit sans forcément s'en apercevoir. Donc c'est un peu ça le théorème de la couche culotte, cette espèce de lent passage d'un état à un autre.
Voilà, on apprend de nos enfants autant que eux apprennent de nous. C'est l'idée qui parcourt votre livre. Racontez-nous, chers auditeurs, chères auditrices, votre écart à vous entre la théorie et la pratique en matière d'éducation des enfants. À quels principes avez-vous renoncé, au moins en partie? Quand et sur quoi avez-vous lâché précisément, que ce soit en matière d'éducation ou de préoccupations écologiques, politiques, féministes? Sur les gros mots à la maison, tenez, peut-être que vous avez lâché aussi. Appelez le 01 45 24 7000 pour témoigner ou laissez-nous un message sur le site et l'application France Inter. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in that sun. la néo-zélandaise Lord sur France Inter. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Voilà le slogan sur lequel repose l'émission d'aujourd'hui. Mes invités sont des parents qui ont réfléchi à cette question de la parentalité. La psychologue Isabelle Roskam, Lucille Bélan, autrice d'un petit traité d'éducation féministe, et Nicolas Santolaria qui publie Théorème de la couche culotte.
France Inter, l'été comme jamais.
Pourquoi tu veux pas dormir? Pourquoi tu dors pas? Je te donnerais bien un somnifère, mais y'en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi? Puisque tu me laisses pas le choix.
Voici le temps des menaces.
Si tu dors pas, je te place. On dirait que ça marche.
Et Benabar nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Voici le temps des menaces, chante-t-il dans cette jolie berceuse. Alors menace, le mot est un peu fort. Chantage aussi est un mot impressionnant. Mais est-ce qu'on fait autre chose finalement quand on conditionne une obligation à quelque chose que l'enfant aime? C'est ce que vous appelez, Nicolas Santolaria, la politique du si. Si tu n'arrêtes pas d'embêter ton frère, tu seras privé de tablette. Comment vous dépêtrez-vous avec le si, Nicolas Santolaria?
C'est vrai que je m'en dépêtre en théorie, mais en pratique, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et je me suis aperçu aussi que finalement, par exemple, les écrans devenaient un espèce d'instrument de chantage très utile pour obtenir quelque chose. C'est vrai qu'il y a un énorme gap en fait entre les principes et la réalité, parce qu'au bout d'un moment, le parent est épuisé, donc il en vient à retomber en fait dans la politique du si, même s'il sait au fond de lui en fait que c'est pas très bon de fonctionner comme ça.
Est-ce que vous diriez que vous l'utilisez chaque jour, la politique du si?
Je pense que si on regarde bien, oui, je dois l'utiliser à peu près chaque jour, ou plusieurs fois par jour.
Et vous, Lucille Bélan, est-ce que vous utilisez parfois la menace ou le chantage avec vos enfants?
Ah, ce serait extrêmement hypocrite de ma part de dire non, jamais. Jamais, absolument pas. Déjà, ils sont trois, ils sont jeunes, puis il y a différentes phases aussi, ils ont différents âges, tout simplement.
Et puis le confinement a fait du mal, il faut le dire aussi.
Aussi, hein. et puis on a des vies, des carrières, des choses à faire, de l'épuisement personnel, parfois, donc c'est tout à fait normal, je trouve, d'admettre qu'on n'est pas disponible pour faire la meilleure éducation possible. Je pense que moi, enfin, ce que j'ai essayé de penser à travers mon livre, pour le coup, sur cette question-là, c'est un peu en amont, c'est-à-dire avant de genre me culpabiliser de cette histoire du si, mettre en place le dialogue pour dire à l'enfant juste, je suis pas disponible, je vais pas y arriver, je vais m'énerver si on continue d'avoir la même discussion 40 fois par jour, même plus.
Voilà, ça fait 40 fois que je t'ai demandé de te laver les dents, tu le fais pas, si tu le fais pas, il y aura telle conséquence. C'est pragmatique.
Mais dire aussi, tu prends tes responsabilités aussi, à différents âges, les enfants peuvent comprendre ça, et quand on prend ce pas de recul et qu'on dit vraiment là, je suis à bout, on arrive moins aussi à dire des conneries et puis à partir dans ses travers.
Isabelle Roskam, quel regard avez-vous sur le chantage comme méthode éducative?
Alors, je pense que le chantage, il fait partie des réactions naturelles aujourd'hui, pour plein de bonnes raisons. C'est aussi qu'on en est venu à des principes d'éducation non violente, et donc le parent, il se repose aussi sur des pratiques qui sont à sa disposition, et donc dire à l'enfant que ce qui va se passer en fait, parce qu'on appelle ça du chantage, mais au fond c'est pas du chantage, c'est juste prévenir l'enfant de ce qui va se passer s'il n'obéit pas, s'il ne fait pas ce que l'adulte attend de lui.
Oui, mais en général il y a aucun lien, Isabelle Roskam, entre la menace et ce qu'on demande à l'enfant.
Alors ça dépend, ce qu'on travaille beaucoup avec les parents par exemple, c'est le fait justement d'établir un lien qui soit proportionnel et bien pensé. Si vous dites à un enfant, ok tu manges pas ton assiette, mais ça veut dire que t'as juste pas faim et donc il n'y a pas de dessert après, il y a un lien, c'est proportionnel. Maintenant si on dit à l'enfant, si tu manges pas ton assiette, je t'envoie dans ta chambre jusqu'à demain matin, effectivement il n'y a pas de lien et puis c'est pas proportionnel. Et donc il y a chantage et chantage, vous voyez, il y a le chantage qu'on peut dire quand on est à bout, qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on dit. Et parfois on se met soi-même dans des difficultés, hein. Si vous dites à l'enfant, si t'arrêtes pas je te débarque sur le prochain parking, les enfants savent très bien que vous allez pas le faire. Et donc finalement vous vous décrédibilisez, les enfants continuent parce qu'ils savent très bien que vous mettez jamais vos menaces à exécution. si maintenant ce chantage, comme on l'appelle, est en fait une pratique qu'on dit proactive, c'est-à-dire qu'on prévient à l'enfant des conséquences de son acte, et donc l'invité précédente soulignait, c'est aussi amener l'enfant à prendre ses responsabilités. Tu t'habilles pas, tu vas à l'école en pyjama, et finalement, moi, ça changera rien à ma journée, mais c'est toi, tu te bats contre personne, tu t'habilles pas pour me faire plaisir, tu t'habilles parce que c'est bien pour toi de pas avoir froid et de pas arriver en pyjama à l'école. Donc, ramener l'enfant à ses responsabilités à lui, et avoir utilisé cette pratique en fait de manière proportionnelle et en lien avec le comportement de l'enfant, c'est évidemment super. Donc il y a chantage et chantage. Et quand on est épuisé, on a tendance effectivement à se laisser aller à du chantage qui n'a pas de sens et qui nous décrédibilise. Mais quand c'est pensé en amont comme une pratique qui est proactive, ça peut être vraiment très efficace en fait.
Les messages, les témoignages des auditeurs et auditrices nous parviennent sur le site de France Inter. J'aime beaucoup celui de Xavier qui nous écrit « Pour notre premier enfant, on a tout fait dans les règles. Pour le deuxième, on était beaucoup plus relax. Et pour le dernier, on a déchiré la feuille de match. Il a survécu, dit-il. Et nous aussi. Nicolas Santolaria, quand vous étiez petit, vous l'écrivez dans votre livre, vos parents répétaient sans arrêt une formule qui avait le don de vous agacer. Ils disaient, de toute façon, quoi qu'on fasse, on aura raté votre éducation. Est-ce que vous êtes à présent convaincu qu'ils avaient raison ?
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ça me choquait, parce que j'avais l'impression que c'était une forme de moindre investissement de leur part. Et en devenant parent, en devenant père, j'en suis venu à me dire que finalement, moi aussi, j'allais un petit peu rater l'éducation de mes enfants, au regard de, en tout cas, des modèles idéaux. Ça passe par plein de petits trucs, quoi. Mais c'est vrai que je m'imaginais, par exemple, en père de famille, en train de lire des histoires le soir, avec une voix à la Philippe Noiret. Et je me rends compte que j'y arrive pas, ça marche pas. Donc, plein de petits trucs comme ça, qui fonctionne pas par rapport à l'espèce d'idéal parental. Et donc, à certains égards, moi aussi, je rate l'éducation de mes enfants, et je dirais que c'est tant mieux, parce que sinon, on est dans quelque chose de trop programmatique, on n'est pas en train de fabriquer des robots. Et donc, c'est aussi dans les failles que se construit la relation du parent à l'enfant, et que l'enfant advient en tant qu'individu par la suite. Donc je pense que c'est aussi important de rater un petit peu l'éducation.
Vous optez pour une éducation acceptablement imparfaite, c'est votre formule, une éducation dont l'amour est l'ingrédient secret. Comment vous donner tort, Nicolas Santolaria? Mais vous écrivez aussi qu'une éducation un peu trop réussie pourrait s'apparenter à un dressage. Que voulez-vous dire par là?
C'est vrai que si c'est trop réussi, on est dans quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de programmatique, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, il va correspondre à un modèle qui est un modèle qui vient pas forcément de lui, et donc finalement, il va correspondre à l'attente du parent, et il va pas vivre lui-même ses propres émotions, son propre développement. Et c'est en ça que finalement qu'il y a quelque chose de raté dans l'éducation trop parfaite, c'est que l'enfant. Et puis aujourd'hui, ça passe par beaucoup de choses aussi. Il y a la force des images, des photos. L'enfant, il est pris assez rapidement dans une sorte d'attente très forte. À mon sens, rater l'éducation, c'est aussi lui montrer que finalement, l'imperfection, elle fait partie de l'existence, de la vie. Et donc ça lui permet ensuite de continuer son propre chemin. C'est en ça, je pense qu'il faut rater un petit peu l'éducation pour pouvoir la réussir.
Voilà, j'ai raté ton éducation, mais c'est pour ton bien. Lucille Bélan, cette ambition de ne pas être un parent parfait parce que c'est impossible, est-ce qu'elle se heurte parfois à des principes qui nous tiennent vraiment à cœur? Vous qui êtes une militante féministe, le combat contre les stéréotypes de genre est un combat important pour vous. Mais est-ce que vous y renoncez parfois en tant que mère?
Mais c'est pas un renoncement tout à fait. Là, on en parle de manière générale, et effectivement que le féminisme aussi se base sur des idées qui sont générales. Mais on aborde la parentalité de manière individuelle. On est une personne avec une histoire, avec ses parents aussi. On s'inscrit dans quelque chose de plus vieux, de plus général et de plus fort que nous. Et les enfants, c'est pareil. Ils arrivent avec leur petit bagage d'enfant. Au début, ils sont tout nus, et puis après, leur personnalité se construit. Et évidemment que quand on est au premier enfant et qu'on se dit je vais faire une éducation maternage proximale, je vais faire la totale, je vais faire une éducation non genrée, et qu'on se retrouve avec un enfant...
Il n'y aura pas de bleu, pas de rose chez moi.
C'est ça, et qu'on se retrouve avec une petite fille qui adore les licornes et les paillettes, et bien du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est des questions qui me sont beaucoup revenues quand j'ai écrit le livre. Des gens sont venus me voir en me disant je suis désolée parce que je suis très féministe et ma fille adore les licornes. Et je me suis retrouvée à leur dire mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et au contraire, c'est une expression d'identité aussi. Et en fait, c'est ça qu'il faut dire. dire, c'est que la théorie, c'est une chose, la généralité, c'est une chose, nos convictions, c'en est encore une autre, mais le rapport, la relation qu'on crée avec son enfant, c'est quelque chose d'unique.
La licorne, c'est pas grave, on entend bien l'argument. Y a-t-il des choses que vous considérez graves et qui paraissent aux yeux du reste du monde pas graves du tout?
Bah, c'est toujours ce alors il y a des choses très simples, mais là aujourd'hui ça va être sur l'hyper-consumérisme lié aux cadeaux, au Noël, aux anniversaires, à la façon d'aborder aujourd'hui très performative les goûters d'anniversaire.
Vaste sujet.
Et du coup c'est revenir aussi à des bases là-dessus où les enfants s'amusent, ils passent une super journée, mais on n'est pas obligé de faire des petits sachets cadeaux pensés 3 semaines avant pour tous les enfants sur une thématique précise, d'avoir décoré l'intégralité de l'Amazon, d'avoir fait un escape game sur le sujet. C'est des choses, ça prend du temps de déconstruire tout ça, parce que du coup, comme on est perdu dans toutes ces performances de parents, encore plus aujourd'hui, on se retrouve à se dire, à mettre du positif, et donc fatalement à se dire, je vais faire la plus belle fête d'anniversaire possible.
Mais c'est la comparaison qui est difficile à assumer, c'est le regard social qu'on a du mal à affronter.
Aussi, c'est lié à notre rapport aux réseaux sociaux, fatalement, parce que du coup, c'est très facile de dire, mes parents n'ont pas été, enfin c'est pas très facile, mais on dit beaucoup, toutes, que nos parents n'ont pas forcément été des parents parfaits, ça c'est quelque chose sur lequel on est assez d'accord, mais du coup, quand on regarde les autres, on se dit, ils ont quand même l'air d'être beaucoup plus parfaits que moi. Et c'est très difficile aujourd'hui, avec justement, il y a eu le blogging parental, il y a l'Instagram parental. Il y a aussi les influences étrangères, et c'est des choses qui sont assez douloureuses à déconstruire aussi, se calmer par rapport à ça, mais plus les enfants grandissent et plus ça va, en fait. C'est quelque chose qu'il faut dire aussi aux gens,
ça va aller.
Plus votre enfant a une personnalité propre, plus il a sa vie propre, et plus en fait la relation devient unique, et on n'est plus dans reproduire des choses.
On peut aussi se mettre une forme de pression justement avec ça, en se disant qu'il faut vite faire le travail, si j'ose dire, de l'éducation féministe par exemple, parce qu'après c'est trop tard, quand il aura des stéréotypes plein la tête, je ne pourrai plus rien faire.
C'est une relation avec son enfant, ça se construit au jour le jour sur des années, donc en l'occurrence on ne peut pas merder en une fois, à moins de merder vraiment très très fort.
Voilà qui est très rassurant.
On peut tout rattraper, on peut tout discuter, on peut dire que ce jour-là on a pas, comme, en fait c'est comme quand on dit qu'il faut pas crier, on est tous d'accord et toutes d'accord pour dire qu'il faut pas crier sur son enfant, mais le jour où on a crié, est-ce qu'on a foutu en l'air toutes les années d'avant? Non, en l'occurrence non. On peut dire après, je m'excuse. En fait, c'est une posture de parent aussi de dire qu'on peut se tromper, c'est pas quelque chose qui était très développé dans les générations antérieures, de dire je suis une personne faillible, je me trompe, je peux dire des conneries, et en plus je peux faire des conneries, et ça change toute la relation à l'enfant.
On va prendre en ligne une auditrice qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour à vous, Catherine.
Bonjour.
Bienvenue, racontez-nous.
Merci. Moi, je suis une maman, toujours une maman. Je crois que c'est un rôle qui ne nous quitte jamais. Mmh. J'ai eu ma première fille à 31 ans, donc qui est assez âgée, et ma dernière 5 ans après, donc j'ai eu 3 enfants. J'ai souvent élevé mes enfants seuls parce que mon mari était professionnellement très très pris, et moi je voulais continuer à travailler. Donc ce qui m'a marqué durant toutes ces années, je dirais, c'est de cette espèce de dualité permanente où vous êtes 3 personnes à la fois. C'est-à-dire que vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous êtes une éducatrice, mais vous êtes aussi une intendante, vous êtes aussi une soigneuse, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est bourré de petits gags, de choses qui arrivent comme ça, à l'instant. Vous en avez 3 tout d'un coup avec une gastro qui en général se déclenche le matin, minuit, et vous courez après la baby-sitter qui voudra bien s'en occuper, parce qu'il faut que vous soyez au travail. Et après, dans l'éducation, en fait, je dirais que c'est presque une... Alors, les principes, moi, évidemment, bien sûr, j'en avais, je me disais...
Ah, c'est du passé, hein, vous en aviez.
Ouais, bien sûr, je ne ferai jamais ça, et mon Dieu, je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai acheté des poupées Barbie, comme tout le monde, après, elles ont été customisées, comme tout le monde, je voulais pas donner une éducation genrée, parce que moi, j'en ai pas une, mais curieusement, je faisais trop à leur place, parce que ça gagnait du temps, enfin bref... sur les discussions, c'était par moments pas facile non plus parce qu'il y a de la fatigue.
Voilà, on entend bien dans votre témoignage, Catherine, que c'est la fatigue, que c'est cette impression d'être 3 personnes à la fois qui a mené au renoncement des principes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne journée à vous. Je vais donner la parole à la psychologue Isabelle Roskam. 3 personnes à la fois, nous dit cette auditrice.
Ah oui, parce que être parent, c'est un boulot
qui implique évidemment beaucoup de rôles sociaux, comme on dit. Et en fait, il faut voir, c'est très bien ce témoignage, parce que je pense que chacun doit concevoir son identité, le self, hein, comme on dit en psycho, le soi, comme une multitude d'identités, à l'intérieur de laquelle il y a l'identité parentale, mais là aussi son identité qui est liée au travail, l'identité qui est liée au loisir, l'identité de couple, l'identité amicale, l'identité, voilà, on est une collection d'identités, et quand on devient parent, eh bien c'est une identité à part entière qui vient s'inviter dans le soi, avec cette particularité que c'est presque la seule identité dont on ne pourra jamais se défaire. En fait, vous pouvez changer d'identité de couple, hein, vous pouvez décider de vivre seul ou de changer de compagnon, vous pouvez changer même d'identité de genre aujourd'hui, vous pouvez changer d'identité professionnelle, mais l'identité parentale, une fois qu'elle s'est invitée dans le self, en fait, on ne peut plus la bouger. Et elle a une autre particularité, c'est qu'elle va prendre systématiquement beaucoup de place, en particulier pour les femmes. Et elle va donc comprimer un peu les autres identités. Donc ça veut dire que après la naissance des enfants, bah oui, il faut avoir, on a moins de disponibilité pour les amis, pour le travail. Parfois on réduit son temps de travail, voire on arrête de travailler. On réduit son temps pour les loisirs. Et donc ça peut exercer une certaine forme de. Bon, d'abord c'est compliqué parce qu'il faut renégocier la place de chacune des identités. Et on le fait pas qu'une fois, on le fait tout au long de la vie parce que la vie évolue, que la place de la parentalité, même si elle ne quitte jamais, en fait, elle va prendre des places différentes quand les enfants sont petits, quand ils grandissent, quand ils deviennent ados, quand ils sont adultes, quand il y a des périodes plus difficiles, voilà. Et c'est pareil pour le boulot. Des fois, le boulot va aussi comprimer un peu le reste. Et donc, on est sans cesse, en fait, en train de jouer avec ces différentes identités dans un équilibre qui est très dynamique, mais qui prend de l'énergie, évidemment, quand il faut jongler avec tout ça. Et je pense, puisque on a une personne qui s'intéresse au genre, et puis moi je viens aussi de publier un ouvrage sur les psychologies du genre, c'est encore un travail qui est plus compliqué pour les femmes de renégocier ces identités-là, parce que nécessairement la place de l'identité parentale, ça reste quelque chose qui est très, très saillant et très important, en fait, dans l'identité des femmes.
Allez, vous continuez à nous écrire, chers auditeurs et auditrices, peut-on avoir des enfants et des principes ? Moi, quand j'explique à mes enfants qu'il faut éviter de dire des gros mots, ils me répondent toujours « Oui, mais Renaud, il en dit plein ». C'est pas pareil, c'est Renaud. Mistral gagnant sur France Inter. Quoi d'autre ?
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères, et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Mais quel bonheur. Vous écoutez L'été comme jamais, une émission préparée par Mao de Butler et Margot Page avec l'aide de nos précieuses stagiaires Marie Aubert et Tiffaine Mendès. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, réalisation Alicia Vullo et Loïc Frapsos à la technique. Nous parlons d'éducation des enfants ce vendredi. Quels sont les principes, les valeurs auxquelles on renonce en ayant des enfants? Comment expliquer justement ces valeurs aux plus jeunes? Question difficile.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains y vont?
Parce que Saint-Benoît, c'est privé. Et le privé, c'est dégueulasse, mais tu vois, c'est la sélection, c'est l'injustice.
Ce qui est injuste, c'est que je peux pas y aller.
Non, je te dis que le privé, tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais, ça a l'air bien.
Mais non, je te dis.
Le privé, c'est l'argent, c'est les riches qui vont là-bas, mon cœur.
Ça veut dire qu'on est pauvres, non?
Mais c'est pas ce qu'on dit.
Non, ça veut pas dire ça, mais...
Bah alors pourquoi je peux pas y aller?
Parce que le privé, c'est la rupture du pacte républicain. C'est l'ascenseur social qui se bloque.
C'est-à-dire qu'on on est des rebelles.
Extrait du livre « La lutte des classes » avec Leïla Bekti et Edouard... Qu'est-ce que je dis? Oui, Leïla Bekti et Edouard Baer, film de Michel Leclerc, « La lutte des classes ». Lucille Bélan, vous reconnaissez un peu dans ces personnages?
Oh bah forcément un peu, et c'est vrai que quand on est militante, on se retrouve toujours à des moments à devoir, pour expliquer totalement sa pensée, partir dans des concepts. Après, je pense que c'est des graines qu'on plante aussi, et que si l'enfant n'a pas totalement compris de quoi on parle à l'instant T, comprend l'idée, l'intention et la passion sur certains sujets.
Nicolas Santolaria, est-ce important à vos yeux de parler politique avec ses enfants et d'expliquer à ses propres enfants ses opinions politiques?
Oui, je pense. De toute façon, souvent, ils sont assez demandeurs, quoi, ne serait-ce que sur le processus du vote qui les interroge. Moi, je suis pas dans une démarche forcément militante avec mes enfants. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui une espèce de pente dans la société, justement, où on veut résoudre les problèmes sociaux au travers des enfants, beaucoup. C'est important, justement, de les sensibiliser à beaucoup de thématiques, mais je pense qu'il y a une limite à placer ici et à pas faire de l'enfant une sorte de prolongement, comme on peut le voir aussi dans d'autres types d'activités, comme ces pères par exemple qui veulent que leur enfant fasse du motocross parce qu'ils n'ont pas réussi à être champion de motocross. Il y a un peu, et voilà, c'est une question de dosage, je dirais, il y a quelque chose à mesurer là-dedans, à mon sens.
Vous écrivez que la parentalité est de plus en plus vécue comme une forme de médecine préventive, Nicolas Santolaria. Si nous éduquons nos enfants de façon bienveillante, sans crier, sans leur inculquer aussi de stéréotypes sexistes, sans faire l'apologie de la violence, par exemple, avec des armes factices dans leur chambre, alors le monde de demain sera plus beau. Je résume, bien sûr, je caricature, mais il y a un peu de ça, non?
Oui, il y a un peu de ça. Ouais. On va tenter de résoudre au travers de l'enfant tous les problèmes sociaux qui aujourd'hui se résolvent beaucoup moins de manière politique. Et donc l'enfant devient une sorte de prisme, au travers duquel on va essayer de manière anticipée, en fait, parfois au travers des activités périscolaires. Par exemple, on s'aperçoit que il y a de la violence dans la société. Les enfants, ils vont tous aller au karaté. La société se numérise, ils vont faire du code, etc., etc. Donc, du coup, ils se retrouvent avec des plannings hyper chargés en prévision justement de la société de demain. Ils vont faire de la draisienne pour être plus équilibrés. Donc voilà, il y a quelque chose qui, je pense, chez le parent, se projette dans l'enfant. De manière peut-être parfois un peu exagérée, c'est parce que l'enfant, ça lui fait aussi une forme de poids sur les épaules, sans qu'il en ait forcément conscience, sans que le parent non plus en ait forcément conscience. Mais en tout cas, oui, je ne sais pas si l'enfant est véritablement une granule homéopathique, j'en doute.
Qui va guérir le monde. Nous recevons des courriels d'auditeurs et auditrices sur l'application et le site France Inter. Maman de 3 enfants, nous écrit Anaïs, j'ai renoncé à dire toujours ou jamais, car je sais maintenant que tout se construit, se déconstruit et se reconstruit. Nos valeurs nous guident, mais pas de posture de principe. On fait du mieux qu'on peut, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de fatigue. On s'explique, on s'excuse quand c'est nécessaire, vous le disiez Lucille Bélan, et on avance. J'ai aussi renoncé, écrit Anaïs, à la culpabilité. Je préfère chercher à progresser. Marie, nous parlions tout à l'heure du chantage qui serait acceptable si la menace est proportionnée et surtout si elle a un lien avec la chose qu'on demande à l'enfant. Voilà ce que nous écrit Marie. Ma fille m'agaçait car elle tardait à faire faire sa valise pour la colo. Je lui ai expliqué qu'elle était désormais assez grande pour la faire toute seule. Elle ne bougeait pas le petit doigt, elle attendait que je la fasse. J'ai fini par la menacer en lui disant que si elle ne faisait pas sa valise, elle irait en colo sans valise. Et ben c'était fait dans les 10 minutes. Voilà une très belle histoire. Lucille Bellan. Quelque chose qu'on n'a pas encore dit depuis le début de cette émission, c'est qu'on n'est pas tout seul à élever nos enfants. Il y a beaucoup d'adultes dans la vie des enfants et c'est aussi ça qui fait leur éducation, leur formation.
Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi l'histoire familiale, mais il y a aussi, donc lié à cette histoire familiale, les grands-parents, les oncles et tantes, les gens qui sont à l'école, à la maternelle, à la crèche, et puis les gens dans la rue. En fait, c'est des choses. Il y a une sociabilisation naturelle. Enfin, l'enfant croise des gens. On ne le met pas dans une bulle magique où il ressortira à 18 ans avec en étant un adulte tout à fait équilibré, avec les mêmes valeurs que nous, et ce serait magique. Ça marche pas du tout comme ça. Et donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de conflit permanent. Alors on est souvent en conflit avec son enfant, les témoignages vont dans ce sens aussi. On est en conflit avec son conjoint ou sa conjointe. On est en conflit avec ses parents, parce que du coup leur rapport à être grand-parent, c'est pas pareil pour eux qu'être parent. Donc on se rend compte que c'est pas la même histoire quand même, c'est pas la même chanson.
Comment on gère ces conflits? C'est la guerre à chaque fois.
Alors
pour vous
justement, c'est cette posture guerrière qui est très douloureuse souvent, parce que ça nous épuise deux fois plus, voire plus encore. Et c'est ça, sur ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire essayer de mettre autour de soi aussi un tampon, mettre en place un dialogue avec l'école et avec les gens autour de soi. On ne sera pas toujours d'accord, en fait. Tout le monde ne partage pas les mêmes opinions, mais on peut aussi, plutôt que se mettre en colère tout de suite et partir avec sa fourche en guerre vraiment contre l'éducation nationale, contre le boucher qui a mégenré son enfant 400 fois de suite, et bien du coup on va rencontrer les gens. Ouais. En fait, l'exemple, il est simple. Mon fils a les cheveux longs et je ne me bats plus contre tous les gens qui disent que c'est une petite fille toute la journée. Je laisse le faire lui-même s'il en a envie. Et s'il s'en fiche, il s'en fiche. C'est des exemples simples comme ça, ou le laisser choisir sa tenue de façon simple. C'est un enfant qui, il y a quelques années, pouvait avoir envie de porter une robe pour sortir. Et la discussion avec lui, c'était « Je ne peux pas te protéger complètement dans l'espace public. Il est possible qu'il y ait des gens qui réagissent mal. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Mais en l'occurrence, tu sais que c'est possible que ça arrive. » Et donc ça, c'est aussi un truc de, plutôt que de partir en guerre tout seul, toute seule, c'est aussi dire avec son enfant, tu penses que c'est important pour toi, on va le faire ensemble.
Je vous soumets le message de Julie, mère de deux garçons. J'essaie de les éduquer en dehors des limites de genre, écrit-elle, pour ne pas dire de manière féministe, jouer avec des poupées, faire de la danse classique, etc. Mais quand le grand de 6 ans m'a demandé de lui mettre du vernis rouge sur les ongles des mains, là j'ai calé, j'ai eu trop peur du regard des autres, même dans la rue.
C'est évidemment une question qui se pose. Alors après, moi, je dis, écoute, t'es un enfant, donc plutôt du vernis pour enfants. Alors du coup, on arrive à rendre ça... Après, ça nécessite de faire des recherches. Hein. C'est extrêmement fatigant de se taper tous les sites de vernis bio qui s'enlèvent à l'eau. Et puis, c'est une charge supplémentaire, évidemment. Mais donc, c'est des marques qui proposent pas de couleurs plutôt adultes. Et puis après, on peut dire, il y a un temps pour tout. On peut proposer ce temps de vernis à la maison et puis l'enlever quand on sort. On peut dire aussi... il y a plein de solutions à trouver, mais ça nécessite en tout cas une réflexion et un dialogue, c'est sûr.
Vous diriez qu'il est différent d'élever un garçon et une fille avec une préoccupation féministe?
Ça l'est forcément, parce que du coup on est dans une société, et idéalement non, et j'aimerais bien que ce soit le cas un jour, mais aujourd'hui ce serait complètement absurde, et je vis pas dans une réalité parallèle, de croire que éduquer une fille et un garçon c'est pareil. Moi en tant que mère déjà, j'étais beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'avoir des filles, parce que je me disais je vais en faire des femmes fortes, elles vont être courageuses, j'ai plein de trucs à leur apprendre, mon expérience personnelle va leur servir. Et quand je me suis retrouvée avec un petit garçon, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pour que ça devienne pas une mauvaise personne? Et c'est un changement de paradigme énorme, et c'est une culpabilisation, une auto-culpabilisation d'avance, de se dire là pour le coup je ne sais pas ce que je vais faire, et j'ai peur de devenir cette mauvaise personne, et à le regarder comme je regarde les hommes dans la rue, parce que j'ai toute une histoire aussi de femme derrière moi. C'est très difficile et très douloureux, mais en l'occurrence on avance avec ça, puis encore une fois on apprend à aimer son enfant, la personne que c'est, et pas juste son genre, ça s'apaise naturellement en fait. C'est des peurs qui sont normales, mais ça s'apaise.
Isabelle Roskam, je me souviens de Françoise Dolto qui disait que quand elle ne savait pas comment faire avec ses propres enfants, elle leur demandait, elle leur disait « si t'étais moi, qu'est-ce que tu ferais ?» Et leur réponse l'aidait beaucoup. « C'est comme ça que je les ai élevés », disait-elle. Qu'est-ce que vous pensez de ce parti pris ?
Alors, ça peut être un parti pris dans certaines situations, parce que nécessairement aussi, ça montre plein de choses. Ça montre à l'enfant que le parent, il n'a pas la réponse à tout, qu'il ne connaît pas les solutions sur tout. Et ça, je pense que ça rejoint ce qu'on a déjà souligné plein de fois, c'est admettre devant l'enfant qu'on est faillible, qu'on n'est pas un être parfait. Et les enfants se construisent, c'est très important là-dedans, sinon on leur inculque en fait l'idée de la nécessité d'être un adulte parfait, du culte de la compétition, du perfectionnisme qui est en fait à la base de plein de troubles de santé mentale. Donc c'est très bien d'être un parent faillible. Donc je pense qu'on véhicule ce message qu'on n'a pas la réponse à tout, que ça c'est super, et que parfois l'enfant nous désarçonne et que là tout de suite on n'a pas la solution. Deuxièmement, c'est très stimulant pour l'enfant parce que ça l'oblige en fait à se mettre à la place de l'autre. Ce que les enfants, quand ils sont très jeunes, ont beaucoup de difficultés à faire. Ils sont très égocentrés. Et donc, chaque fois qu'on les amène en fait à prendre la place de quelqu'un d'autre et à ressentir les émotions d'un autre, c'est-à-dire dans le cas échéant ici, le désarroi, par exemple, qu'on peut avoir en tant que parent dans une situation. Et donc, c'est très chouette en fait pour la stimulation du développement cognitif de l'enfant qui apprend à se décentrer. Et troisièmement, je pense qu'effectivement, ça ouvre sur des questions de communication avec l'enfant, d'avoir une relation vraie dans laquelle on échange sur ce qui nous fait douter, sur ce qui est compliqué. Et donc, je trouve qu'en fait, c'est très bien. Mais d'un autre côté, aussi, parfois, en tant que parent, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans une relation symétrique. Et donc, je pense qu'il faut, on est dans ce culte de l'enfance qui met l'enfant au centre de tout, mais parfois on oublie qu'on n'est pas dans une relation symétrique et que le capitaine du bateau, c'est quand même le parent, quoi. Et donc, à trop demander tout le temps l'avis de l'enfant sur qu'est-ce qu'il ferait, parfois ça nous met aussi dans une position où il faudrait parfois suivre l'avis de l'enfant et on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas de meilleure solution derrière à proposer, parce qu'on est un peu le bec dans l'eau avec ce que l'enfant a répondu. Et donc, je pense qu'il faut être prudent dans ces pratiques, les utiliser à bon escient, mais pas tout le temps, parce que des fois, je pense qu'il faut aussi remettre l'enfant à la place qu'il doit occuper, c'est-à-dire une place d'enfant. Et pourquoi je dis ça? Pas parce que je veux être dans un rapport d'autorité bête et méchante, mais c'est aussi parce que c'est sécurisant pour l'enfant d'être avec un adulte qui est le capitaine du bateau. Et c'est pas l'enfant qui, en fait, doit trouver les solutions, c'est pas lui qui doit chercher comment on se sort d'une situation compliquée, même quand c'est lui qui l'a provoquée, parce que le parent, ça reste celui qui sécurise, en fait. Et donc, avoir devant soi un adulte qui est solide et qui dit « je n'ai pas la solution tout de suite, mais je vais la trouver, je ne te demande pas forcément ton avis, et quand je l'aurai trouvé la solution, on va l'appliquer comme moi je dis », eh ben, des fois, c'est frustrant pour l'enfant, mais c'est aussi extrêmement sécurisant d'avoir un adulte solide en face de soi.
Et le capitaine du bateau, parfois, prend l'apéro. Sujet important dont vous parlez dans votre livre « Théorème de la couche-culotte », Nicolas Santolaria. Au fil du temps, écrivez-vous, je me suis aperçu que l'apéro, tradition profondément ancrée dans la culture française, était devenu, à mon insu, un des modules les plus appréciés de mon projet éducatif. Il faut nous expliquer cela.
Oui, bah c'est vrai que je dirais que l'apéro, c'est un petit peu un des derniers rituels qui survit au changement de vie quand on devient parent, parce que le resto, c'est très compliqué, le cinéma, c'est quasiment impossible, ça coûte très cher, il faut prendre une babysitter. Donc c'est vrai que l'apéro, comme c'est souvent en plein air, bah c'est un petit peu le seul rituel qui reste. Et donc les enfants, je me suis aperçu qu'ils adoraient, parce que il y a une forme de remise en question déjà du régime de normes traditionnel dans l'apéro, où tout à coup on en accepte qu'ils mangent des chips, qu'ils boivent des sodas, alors que d'habitude c'est beaucoup plus contrôlé. Donc ils adorent ce moment, et puis ils voient aussi le parent un petit peu ou se dissoudre, en tout cas ses principes se dissoudre sous leurs yeux. Donc je trouve qu'il y a une fonction intéressante, mais à laquelle il faut faire aussi attention, parce que c'est vrai que ça peut devenir presque une sorte de modèle qui s'instaure pour l'enfant, notamment au travers des produits proposés aujourd'hui par l'industrie. Bah, il y a notamment, je ne sais pas si on peut le citer, mais le fameux champomille, qui est ce champagne pour enfants. Et donc, les enfants font comme les adultes, et il ne faudrait pas que ça soit aussi le tremplin vers une alcoolisation future ritualisée. Donc, c'est vrai que l'apéro, je trouve ça intéressant à plein de niveaux en termes éducatifs, mais en même temps il y a quelque chose d'un petit peu dangereux là-dedans, voilà. Donc c'est il y a une pondération à avoir au travers de ça. J'en ferai pas non plus quelque chose d'institutionnalisé, je dirais.
Voilà, au motif de dynamiter joyeusement un carcan éducatif, ne serait-on pas en train de banaliser l'alcool aux yeux des enfants? L'apéro tout de même permet de desserrer l'étau parental.
France Inter, Dorothée Barba, l'été comme jamais.
Je l'ai revue au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie tous les portraits qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné. C'est à lui, sa bouche la même et ses yeux pointus, sa voix, il n'avait rien perdu, c'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Le jour d'après, il est revenu. Les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé. Il a tout gardé. Et il a tout gardé.
C'était François and the Atlas Mountain sur France Inter. Qu'est-ce qui compte, au fond, dans l'éducation des enfants? Sans doute, est-ce de faire en sorte que nos enfants soient doués pour le bonheur? J'aime aussi beaucoup ce message de Véronique, une auditrice. Dernièrement, dit-elle, j'ai lu une citation que j'aime énormément et c'est ainsi, j'espère, que j'ai élevé mes enfants. Ils ont besoin de deux choses, des racines et des ailes. Nous approchons du terme de cette émission. J'ai une dernière question à poser à mes invités. Chaque matin se dessine ici un éloge du doute grâce aux réponses à cette question. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Nicolas Santolaria.
Oui, alors moi, c'est un truc tout bête, c'est la glace Spider-Man. Je sais pas si, parce que je sais pas si vous connaissez cette appli Yuka qui permet de scanner les aliments
en fonction de leur qualité nutritionnelle, voilà.
Et donc, mais c'est vrai que mes enfants s'en plaignent beaucoup parce que ça leur a enlevé plein de junk food, plein de gâteaux et tout qui ont disparu des placards à force d'être scannés. Et là, récemment, on s'est retrouvé dans une station-service où on a pris deux glaces. En fait, mon fils cadet, il a pris une glace Spider-Man qui paraissait horrible, et mon fils aîné, un Eskimo plus traditionnel. Et après avoir passé les emballages à Yuka, en fait, la glace Spider-Man, contre toute attente, s'est retrouvée quasiment excellente, quoi. Donc voilà, j'ai changé d'avis sur la glace Spider-Man.
Voilà un bel exemple. Isabelle Rosca, même question.
Alors moi, j'ai changé d'avis sur un truc professionnel, mais qui me concerne aussi en tant que maman, c'est que j'ai travaillé des années avec des parents d'enfants dits difficiles, dont j'avais l'impression qu'il fallait qu'il fallait coacher, en fait, qu'il fallait les aider sur leur plan de leur parentalité. Et c'est quelque chose, en travaillant sur le burn-out parental, sur lequel j'ai complètement changé d'avis. Je pense qu'au contraire, il faut apprendre aux parents à se faire confiance, que c'est eux les experts de leurs enfants et que les experts doivent se mettre bien moins en avant pour donner des conseils aux parents sur comment faire.
Très belle humilité de l'experte. Lucille Bellan, même question. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis ?
Sur les enfants des autres. Parce que du coup, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup en ce moment. Donc je parlais d'être en guerre contre plein de gens et se retrouver comme ça. Et donc arrêter d'être la personne arrêter de participer à cette logique guerrière comme ça. On arrête de lever les yeux quand on rentre dans le train et qu'on voit qu'il y a une famille avec deux ou trois enfants. On arrête de dire, moi je vais que dans des restos où il n'y a pas d'enfants. Et on arrête de dire, franchement, les enfants, c'est chiant. Sur les réseaux sociaux, où il y a des gens en situation de fragilité qui peuvent en souffrir. J'ai été la première à en souffrir. Et je me suis rendu compte que pendant quelques temps, j'ai nourri ça. Donc, on change d'avis sur les enfants des autres.
Petit traité d'éducation féministe de Lucille Bellan est à lire aux éditions Le Duc. Théorème de la couche culotte de l'éducation comme science inexacte de Nicolas Santolaria, c'est chez Anna Moza. Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir d'Isabelle Roskam chez Odile Jacob. Et également cet ouvrage collectif Les psychologies de genre, regard croisé sur le développement, l'éducation, la santé mentale et la société, édition Mardaga. Grand merci à tous les trois. Merci, bonne journée.
Merci.
Ils sont tous partis et à bientôt sur France Inter. Dans un instant, ce sera Charles Pépin sous le soleil de Platon.